votre place. Nous allons commencer dans 10 secondes. Juste avant la réunion avec le board et le prochain groupe de parties prenantes. Et à l'affiche, vous allez voir sur la diapositive affichée, nous allons commencer donc avec la rubrique mentionnée ici. Donc le président va nous présenter la diapositive MAT ici. Le groupe apprécie que le board ait cette discussion. C'est toujours le plus important pour nous. C'est vraiment le clou de la journée pour nous. On va commencer avec le RAA et ensuite une discussion de notre perspective. Il y a eu beaucoup de discussions là-dessus pendant la semaine en ce qui concerne l'article 29, le groupe de travail, et la lettre du groupe de travail et la rétention des données et les articles additionnels. Notre préoccupation principale que nous voulions discuter aujourd'hui, c'est le mécanisme pour avoir les registraires pour qu'ils rentrent de nouveau vers l'accord. Une fois que cela est fait, que nous ayons ce paysage équitable que nous avons aujourd'hui avec l'entente de 2009 pour les registraires à la section publique hier qui ont proposé. Oh, bonjour Steve, qui a proposé un cadre de travail pour, en vue d'un objectif d'avoir un RAA complet pour un commentaire public d'ici la fin d'année. Comme on l'a mentionné, cela fait. Ceux qui sont dans le côté registraire et le personnel ont travaillé là-dessus très dur pendant l'année précédente, cette année. Donc, l'objectif fixé pour la fin de l'année est bon. Notre objectif, notre désir est bien sûr de ne pas hâter trop ces questions complexes. Donc, nous visons cette date limite, mais nous le faisons également de procédant de manière qui soit plus bénéfique à tous et pas seulement de hâter le pas au maximum. Donc, nous voulons renforcer cela et avoir des commentaires, des questions que les membres du board ont eues quant à la situation de la discussion RAA.
Nos excuses. Steve Crocker au micro. Mes excuses pour arriver en retard. Merci à Bruce pour avoir démarré la discussion. Comment se fait-il que nous n'avons pas les bras levés des membres du board dans toute la salle? Alors, on a fermé. Bon, c'est fait, c'est fini, on n'en parle plus. Merci. Non, Bruce au micro. Pour ceux qui n'ont pas entendu, Bruce nous a dit qu'on avait une bonne session de mise à jour hier. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de membres du board qui sont déjà venus à cette session. J'ai apprécié, à mon avis, de mon côté, nous allons continuer à travailler avec le personnel pour continuer à travailler sur ces problèmes et nous espérons avoir une proposition de RA pour la période de commentaires publics et nous partirons de ça. Un des problèmes auxquels nous avons fait face durant les négociations RA, c'est nous devons regarder aux problèmes complexes qui étaient devant nous. Et je voulais demander à mon co-Elioaf, qui est notre conseil GSO, et pour qu'il puisse nous parler de la perspective pour qu'il nous parle de ces problèmes qui ont plus à voir avec la communauté en général. Elioaf? Oui, merci. Elioaf, au micro. Nous avons commencé cette discussion durant les discussions GSO avec le board, donc je ne voudrais pas répéter la même chose que nous avons déjà dit durant cette discussion même. Ce que nous croyons en général, c'est que en regardant l'article 29, il est clair que les problèmes qui ont été posés à notre attention sont très complexes, ce sont des problèmes complexes. Ce que nous croyons que nous devrions considérer vraiment à partir d'aujourd'hui, c'est d'aller vers un PDP. C'est je l'ai déjà dit, s'il y a un problème sur la table de chacun qui aura un effet sur tous les regroupements de notre communauté, c'est celui-ci. Et c'est très important que nous ne fassions pas d'erreur. Je voudrais clarifier que cela ne veut pas dire que cette chose soit mise en place, mais je pense que c'est commun. Nous en sommes arrivés à un accord entre les registraires que cela doit être mis en place d'une façon ou d'une autre. Nous devons le mettre en place d'une bonne façon, d'une bonne manière. Il y a aussi un autre problème sur la table, assez compliqué, c'est celui de la vie privée. Les proxys pour la vie privée, non, les fournisseurs de proxy pour la vie privée, c'est aussi un problème compliqué. Nous pensons qu'il ne doit pas être traité lors de négociations, mais avec un PDP. Nous avons vu récemment dans les RDP, un PDP a été rapide au niveau de GLSO. Je peux vous dire que nous allons pousser cela vers l'avant autant que possible, de nous assurer que cela se passe rapidement. Comme je l'ai déjà dit, quand j'ai joint le GNSO, il y a quelque chose que je n'aimais pas quand les choses étaient lentes. Et avec moi, les gens savent que voient les choses de la même façon. Nous aimons que les choses aillent plus rapidement, donc cela ne devrait pas être... Les gens demandent pour un PDP pour que les choses soient retardées. C'est juste pour que nous assurer que les choses soient faites de façon correcte. Steve Kwok, micro. Quelles sont les autres opinions en respect de ce qui concerne de pousser le processus, que le processus soit fait avec un PDP? Quels sont les problèmes avec WIS, les vérifications WIS? Oui, pour le IPC et le BC disent qu'ils sont contre. Le NCUC, qui était au conseil GLSO, disait qu'ils étaient pour. Je pense que tout le monde va nous soumettre son opinion. C'est ce que nous avons entendu jusqu'à présent. Encore une fois, c'est un problème compliqué. Il y a plusieurs différents regroupements qui veulent être entendus, donc on devrait leur permettre d'être entendus. Tout cela est une discussion à propos des processus, dit Steve Rocker. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la substance? Quels sont les éléments clés? Il y a-t-il de la lumière au bout du tunnel ou est-ce qu'on va s'enfoncer encore plus? Vous parlez de... C'est Steve Meyer, je crois. Je pense qu'il y a une lumière à la... Un autre intervenant sur le panel dit « Je pense qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Six mois pour certaines données et la validation de WIS où le registraire pourrait choisir de valider soit une adresse courriel, soit un numéro de téléphone après avoir entré le nom dans son propre dossier. Je pense que si c'est acceptable, une position acceptable pour le personnel, si nous pouvons mettre ça dans le RAA, je pense que ce sera bon pour tout le monde. Mais en retour, ce que nous avons dit de façon consistante, c'est que nous ne pensons vraiment pas que c'est la fin de la discussion, mais cela... Une validation du WIS additionnel serait désirée par la communauté, donc nous devons penser au-delà de ce que nous avons déjà mis sur la table. Nous voudrons voir un processus de développement de politique. Cela n'est pas un impact seulement sur les partis, ça a un impact sur les registraires, mais aussi sur les gens qui veulent enregistrer des noms de domaine et les registrants et ainsi de suite. Donc, Mason voulait poser une question. Je vais lui demander de parler aussi. Mason?
Thanks, Matt.
Merci, Matt. Mason, représentant les registraires. Je voulais ce que vous avez dit au propos des processus, je suis d'accord avec Matt. En réponse à cette question, je pense que c'est une bonne représentation de ce qui se passe vraiment. Mon observation là-dessus, c'est que sur les RAA, c'est que je comprends la frustration au niveau du GNSO, au niveau du temps, la période de temps du processus. Si on pouvait améliorer cela, ce serait vraiment mieux. Il faut faire attention à comment nous traitons nos accords, notre accord. En fait, ce qui se passe avec les registraires ont des problèmes et ils ont besoin d'aide avec ces problèmes. Il y a un effort à faire pour renforcer les mécanismes de contrat et tous les mécanismes qui vont avec. Une façon de gérer le comportement des registrants. Les PDP existent pour une bonne raison. Et c'est aussi pour avoir donné de la stabilité pour les registraires afin de traiter leurs clients. Et de façon contraire, la mauvaise presse sur les registraires. Il dit que nous ne faisons pas seulement un PDP pour ralentir le processus. Nous pouvons, le PDP sont de bonnes idées pour les choses qu'on te proposait. Et nous méritons une prédictive. De pouvoir avoir une certaine prédiction pour pouvoir justement traiter avec nos clients. Elliot, je veux juste... Elliot au micro. Je voulais juste dire que c'est l'éléphant dans la salle, hein, au niveau de la clarification. Les problèmes de délai au niveau des lois nationales sont énormes. Je ne pense pas qu'elles ont été évaluées. Nous savons que les problèmes de les gens qui s'occupent de la vie privée, des lois de la vie privée, certaines de ces lois dans certains pays sont plus strictes que les lois en Europe, par exemple. Personne n'a parlé des problèmes des requêtes de vérification sont complètement différentes pour les registraires différents et où les problèmes de juridiction qui de pays neutre ou de région neutre. Je pense que Steve, désolé Fadi, si on vous amène dans ces problèmes et vous serez devant les autres et vous allez avoir des problèmes si les choses ne se font pas. Ces problèmes sont là, assis sur la table. Il faut que vous soyez au courant de ces problèmes. Steve croit que nous savons qu'il y a un éléphant dans la salle. Nous avons des gros mammifères aussi dans la salle. Assis à côté, derrière vos éléphants, il y a les WIS, l'équipe de révision de recommandations des WIS et les commentaires des SAC. Et Steve, une autre personne au panel, Steve Cocker, je voulais amener le processus de révision de WIS dans la discussion. Je voulais vous demander quelle était votre opinion là-dessus et quelles étaient les négociations de RA actives là-dessus. James, bonjour Steve. James de GoDaddy est un participant sur de l'équipe de révision WIS. J'ai eu des petits problèmes avec cette même question. Il y a deux domaines. Les PDP existant nouveau-nés sur ce conflit, avec des recommandations pour améliorer la justesse des bases de données qui viennent de RT4 et aussi les négociations au niveau du RA pour améliorer le WIS, les vérifications WIS. On essaie d'améliorer la justesse des données à travers les obligations qui sont données aux registraires et aux registres. Et c'est passé vers les registrants. La bonne nouvelle, c'est que l'équipe qui fait la révision sur le WIS, et je parle de ce. Je parle, à mon avis, il y avait des inquiétudes au niveau des WIS, de systèmes centralisés WIS qui pourraient peut-être abrévier et dans un PDP donc abrévié. Il y a donc une question de si on va dans telle direction avec des proxys, avec un programme d'accréditation de proxy. C'est une recommandation des deux groupes. D'où cela vient-il? Est-ce que ça vient du RAA ou est-ce que ça vient de l'équipe de révision? Je pense que la question, la réponse, du moins avec les registres avec qui j'ai parlé, si nous dirigeons ces efforts vers un PDP, c'est égal d'où cela vient. Ça devient une politique de consensus, ça rentre dans un contrat et c'est inforçable, c'est réinforçable. Donc, si vous continuez si nous continuons à utiliser des mécanismes différents, cela devient encore la confusion. Je prends un autre intervenant au panel. Nous voyons les recommandations de l'équipe WHOIS. Une des sujets qui a été discuté sur les forums, c'est le sujet des fournisseurs de vie privée et de proxy. Je pense que durant la session d'hier, on a discuté qu'on pourrait incorporer un accord sur et la révision, l'équipe de révision des WHOIS. Et je vois que Aken essaie d'identifier des idées pour voir comment on pourrait faire ce processus de vérification. Et il faut donc identifier, c'est ce que je lis ici, mais un PDP devrait être mis en place pour mettre en place ce processus. Pardon. Comment est-ce que vous voyez ces discussions? Comment se passe-t-elle? Est-ce que vous êtes d'accord avec les politiques qui sont créées ou est-ce que vous envisagez un travail pour créer des règlements autour de cela? Les choses séparées. C'est intéressant de voir comment vous voyez les choses, comment vous voyez le développement de cela. Parce que les attentes que vous mettez en place, si vous faites un RAA, que vous allez avoir des régulations dans cet espace, les problèmes, c'est comment est-ce que vous en arrivez à ce point-là. Alors, une autre intervenant au panel. Je vais essayer, et après je demanderai à mes collègues de rajouter. Dans le RAA, le langage dit que sur le développement d'un proxy pour la vie privée, les registraires, on demanderait aux registraires d'utiliser des fournisseurs accrédités qui soient enregistrés de façon adéquate. C'est ce que l'on trouve dans les RAA. Et une fois que passera à travers le processus de développement, on s'attend à ce que les membres du registraire seraient actifs dans la participation. Une fois que ce programme est développé et que le processus est terminé, ensuite, le registraire serait donc obligé de suivre les résultats de ces politiques. Un autre intervenant au panel a dit je n'ai pas compris son nom, je m'excuse. Nous avons vu plutôt que les services de proxy allaient être un problème au niveau du système de vérification, puisqu'on devrait seulement utiliser des fournisseurs accrédités. Il n'y a donc pas de programme d'accréditation qui est en place jusqu'à présent. Donc on est d'accord avec le personnel de ICANN de créer, donc de construire une base pour ce qui devrait être fourni de façon à être accrédité. Nous allons demander des idées de la communauté sur ce sujet pour pouvoir finalement mettre à jour cette politique. Ce que nous travaillons en ce moment, ce n'est pas remplacer des politiques, c'est juste quelque chose que nous recherchons pour commencer le processus de créer une politique. Cela m'aide, l'autre intervenant, cela m'aide à les registres, les registraires, sont d'accord pour mettre une clause dans l'accord pour dire que vous allez suivre les données qui seront mises dans les politiques ou vous allez créer une proposition qui garantira le processus de développement des politiques comme un document. Est-ce que c'est juste? La personne dit c'est juste, oui. Une autre personne au micro. Votre anglais est tellement meilleur que mon allemand. Vous utilisez le mot « loophole ». Je ne pense pas que c'est d'un trou, quoi, qu'il y ait un trou dans les politiques, qu'il y ait un manquement dans une politique. l'utilisation de ce mot nous donne l'impression qu'on passe autour d'une chose, qu'on manque à quelque chose. Je voulais juste m'assurer. L'intervenant au panel a dit le mot « loophole », le mot « manquement » n'est peut-être pas vraiment le bon mot. Nous, en tant que registraires, si on était d'accord pour vérifier les registrants, les fournisseurs seraient nos clients, donc ces gens-là seraient... On devrait leur demander de passer à travers les mêmes étapes afin de ne pas créer un manquement et qu'il y ait un manquement. Donc, c'est ça que nous avons vu. Les lacunes, pardon. Le mot loophole, cela veut dire lacune. Excusez-nous. Des points additionnels sur l'erreur, la personne au micro du panel, où nous sommes désolés, nous n'avons pas les noms. Il n'y a pas de scribe. Une personne dans le public au micro. Un point. Je pense que c'est Bertrand de la Chapelle au micro. Quand il s'agit de l'interaction avec le Geneso l'autre jour, le fait qu'il puisse y avoir un aussi tard dans le processus, durant l'article 29, cela donne, éclaircit un peu, cela fournit un peu une coordination qu'on trouve au niveau national entre les différentes autorités qui pourraient être inquiets à propos de ce sujet. La personne sur le panel. Oui, Bertrand, un point additionnel dont nous avons parlé dans la session de mise à jour, il y a des ramifications de cet accord lui-même au niveau du marché des registraires. Il y aurait des demandes, ce qu'on appelle la clause blob. On a été assez clair en tant que groupe que ce n'est pas quelque chose que nous ne voulons pas présenter ce contrat à nos conseils légaux. Les parties, si les circonstances n'étaient pas là. Donc nous sommes très... alors que nous travaillons vers finir cette tâche durant la fin de l'année, c'est quelque chose que nous pourrons peut-être retirer du contrat en allant de l'avant dans les mois à venir. Voilà, nous allons continuer. Une autre personne sur le panel prend le micro. Nous allons donner le micro à Stéphane pour que Stéphane nous parle de l'impact des nouveaux GTLD. Matt, Stéphane Van Gelder. Merci pour le board de nous recevoir ici et de s'engager, de participer avec nous. C'est un sujet au beaucoup d'intérêt pour nous, bien sûr. Il a été discuté avec les interactions avec le Geneso et d'autres et autres. Nous voulons demander aujourd'hui au board quels étaient leurs sentiments sur l'impact potentiel des programmes de nouveaux GTLD sur les parties contractuelles qui se trouvent dans le Geneso, dans les registres et le groupe des registres et des registraires. Je suppose que nous allons aussi poser la question au board. Est-ce qu'une décision pourrait être prise assez rapide si la révision du Geneso devrait être initiée dans le temps qui est supposé d'ici février 2013, si je me souviens bien. Mais notre point d'intérêt principal, c'est d'obtenir le sentiment du board sur quel est l'impact du programme pour nous et pour le GNSO. Steve Crocker, au board, nous avons un sentiment. Est-ce que Ray, vous voulez faire un commentaire? Ray, au micro. Merci, Steve. En parlant de l'impact, je ne vais pas forcément parler de l'impact, mais malgré tout, comme j'ai réitéré ce que j'ai dit l'autre jour durant la réunion, je suis sûre qu'il y a des tas de gens qui n'étaient pas à cette réunion aujourd'hui, qui sont là aujourd'hui. À la base et en premier, les statuts ne nous permettent pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc, la révision qui doit commencer l'année prochaine, En disant cela, si vous regardez le travail qui est anticipé en interne et sur l'impact, sur le projet Impact, nous avons encore besoin de trouver un acronyme pour cela. Nouveau GTL, Impact, nouveau GTLD et structure et procédure et processus. On va peut-être trouver quelque chose, mais enfin bon. C'est vraiment un effort de planning de stratégie. Et pour recommencer cet effort, la première chose que nous devons faire, vous devez regarder vers une analyse sur la révision doit identifier les forces et les faiblesses, ainsi on pourra faire un levier avec ses forces et on pourra travailler sur le programme d'impact. Et de l'autre côté, s'il y a des faiblesses que nous allons détecter, nous devrions passer au-delà afin de faire face, de nous préoccuper de cet impact aussi de la même façon. Donc il y aura une session avec les parties prenantes, avec les directeurs des parties prenantes jeudi, où nous allons passer dans les détails pour voir s'il y a quelque chose que les directeurs nous demandent de faire, les présidents nous demandent de faire, quelque chose que nous avons promis que nous n'avons pas livré. Et là, vous verrez qu'il y a des critères et les critères que nous pouvons utiliser à l'avance. Ce ne va pas être comme la dernière révision GNSO où beaucoup de choses se sont mal passées. Comme vous savez très bien, c'était... fin de compte, nous devons le faire de façon dans le bon ordre et les résultats nous aideront à travailler sur l'impact, sur le projet Impact. J'espère que ça clarifie les choses. Steve Crocker, micro. Chris, est-ce que vous allez passer le dossier à Bertrand pour qu'il puisse étendre là-dessus? Oui, Bertrand va revoir les réponses pour nous donner les opinions du board. Jusqu'à présent, le board n'a pas d'opinion, mais Steve Crocker, faites passer à Bertrand. Bertrand Lachapelle au micro. En répondant à cette question, je voulais dire deux choses. La première chose, c'est que la discussion que nous essayons d'initier n'est pas exclusivement sur l'impact avec le GNSO. L'élément intéressant, il s'agit de discuter l'évolution de l'organisation en entier, structure et processus. Dans le contexte de l'existence de ce programme et de la mise en place de ce programme, par exemple, sans entrer dans les détails, il y a des impacts sur le personnel, comment on s'occupe de la conformité, de système de soutien pour les registres, pour les registraires. En termes de processus, cela apporte des questions intéressantes, comment on s'occupe du renforcement du consensus et ainsi de suite, ce genre de thème. Donc le but, c'est de faire une liste cohérente et de problèmes qui sont identifiés de façon à ce que tous les groupes puissent travailler chacun de leur côté dans leur propre structure et quand ils se retrouvent dans les meetings, dans les réunions physiques, qu'ils aient la même charte, la même liste à échanger. C'est ça un peu le but général. Sans rentrer dans plus de détails. Aussi, nous nous attendons, après la demande qui a été reçue de feedback, après Prague, et merci aux registraires pour leur contribution et leur GNSO aussi, et le GNSO aussi, nous espérions avoir une session complète, ouverte à Toronto pour discuter les positions. Et cela a été à cause de l'horaire et du temps que nous avons décidé cette fois-ci d'avoir juste une discussion avec les directeurs des SO et des AC et des différents groupes pour discuter deux points. Un, comment ce que la communauté voit le processus de discussion et comment est-ce que nous pouvons au mieux préparer pour Pékin de façon à ce que la communauté soit en charge, soit responsable. Et nous sommes tous, bien sûr, au courant de problèmes de temps et de bons moments pour le discuter. Et le deuxième sujet dont Ray parlait tout à l'heure, comment est-ce que c'est articulé avec la révision du GNESO qui a été mandatée par les statuts et aussi le RTRT2 qui va arriver. Donc, en termes de procédure, le but, c'est d'aligner tout le monde pour que l'on ait tous une liste claire des défis potentiels et de les distinguer de ceux où on aura besoin d'une évolution de personnel, de processus et peut-être aussi d'évolution de structure. J'espère que cela répond partiellement à votre question.
Merci, Judith. Donc, Soli Monstrom, je suis préoccupée. Je suis préoccupée. Actuellement, et je parle à titre personnel. Il y a quelque chose qui est évident à tous, c'est que peu importe le nouveau GTLD, la diversité des intérêts, les divergences d'opinion au sein du GNSO provoquent une paralysie. Il y a des décisions cruciales qui doivent être prises. Le PDP n'est pas une solution, uniquement un processus. Solution créative est demandée des entrepreneurs, des entreprises dans la salle. Donc, je prie, sortons du SO et considérons l'ensemble du nom de domaine, de l'espace de nom de domaine. Quittons les chemins battus pour amener les nouveaux GTLD en phase de mise en application de manière à pouvoir être efficace. Wow! Mettons cette touche de wow dans l'espace Internet. Sinon, vous le donnez sur un plateau d'argent à Apple. Il y a d'autres concurrents qui peuvent détourner ce que vous avez créé ensemble comme communauté. Telle est mon observation. Merci. Merci, Chris. Merci, Steve. Stéphane, je suis conscient que Bertrand vous donne une métavision, vide aperçu sur l'impact des nouveaux GTLD. Et cela est vraiment important, mais vous avez également demandé si le board avait une vue spécifique d'Equist de Spain. Mais j'ai eu des idées pour les types qui me passent par la tête, par exemple. Avec l'intégration verticale, vous avez des registres qui sont des registres. Cela a un impact sur votre structure parce que est-ce que je rejoins les deux? Est-ce qu'il y a une préférence à l'un ou l'autre? Ou bien, et comment est-ce que je vois au chapitre? Donc, c'est le micro-niveau qui pourrait impacter votre structure si vous regardez la maison des non-partis contractuels. Vous allez voir qu'il y a des candidats de marque qui vont gérer leur propre registre, mais ce sont des entreprises, donc est-ce qu'ils y vont s'asseoir des deux côtés? Et les problèmes de la caption, est-ce qu'il y a une situation où vous avez tous les 4 ou 5 ou 6 groupes qui sont captés par un petit groupe détournés par un petit groupe de noms l'expansion des groupes également? Qu'est-ce que ça signifie? Il y a une proposition pour que les groupes de café, de cybercafé, je ne sais pas très bien de quoi il s'agit, donc tout cela peut perdre les pédales et pour être équitable et ouvert à tous. Et donc, à ce niveau, cela doit être également géré. ma préoccupation, c'est que si nous mettons tout cela dans un examen indépendant, l'expert autonome pourrait tout recommencer et ce n'est peut-être pas forcément ce qui serait le mieux pour les autres. Merci, Chris. Je sais que j'avais Elliot, mais Stéphane. Elliot, peut-être? Peut-être. Elliot dit, je veux revenir à certains termes. Une des choses qui va devenir évidente et qui sera très importante. Pendant que nous regardons le GNSO, et nous devons le faire, c'est que les termes partie contractuelle et non contractuelle est une façon très pratique de capter une idée par le passé maintenant. C'est un anachronisme. Nous aurons des registraires qui ne sont plus d'une couleur et des registres qui ne sont plus d'une couleur et nous allons voir les intérêts des registraires conventionnels qui vendent aux usagers finaux qui vont devenir plus alignés avec différents groupes au sein du GNSO. Nous devons faire deux choses ici. Nous devons, premièrement, arrêter d'utiliser ces termes comme des termes courants parce qu'ils sont anachroniques. Ils vont modifier la manière de nous diviser le pouvoir au sein du GNSO. Et c'est une opportunité. Ce que ICANN voulait être au départ jusqu'à présent, c'est de permettre aux intérêts des usagers et des intérêts sur un thème particulier de traiter ce sujet, ce qui ferait du GNSO, qui le dégraisserait beaucoup. Et je pense que nous devons faire attention aux termes et regarder vers l'avenir. Je vais répondre. Lorsque nous avons rencontré le CCNSO plus tôt aujourd'hui, l'une des interactions, l'un des volets d'interrogation portait sur cette même question. C'était une demande soutenue qu'ils nous soumettaient pour s'assurer que les CC, la distinction entre les CC et les GIS n'était pas détruite. Quel est le rapport entre cette déclaration et la vôtre et votre déclaration de partie contractuelle, non contractuelle, dans notre jargon? Il ne s'agit pas d'une comparaison directe, non, nécessairement, parce que ce terme s'applique à ce qui est à l'intérieur du GNSO, mais d'un point de vue du bon sens, pour moi, les CC, ce sont des parties non contractuelles, n'est-ce pas? C'est une très bonne question et cela souligne notre lutte, nos difficultés de linguistique. Les CC ont élaboré le document de réforme qui a débouché sur beaucoup de choses qui sont produites à ICANN, mais on a fait beaucoup d'efforts pour donner aux CC la reconnaissance qu'ils étaient différents. Et cette différence, c'était que leur création et leur gouvernance étaient à l'intérieur de leur État-nation. Et c'est cette différence qui ne change pas lorsque je parle de cela. C'est surtout sur le contractuel et non contractuel. Et dans le cadre des G et la manière dont les GNSO fonctionne. Je suis d'accord et c'est consistant. Merci, Stéphane Van Gelder. Donc, merci pour ces réponses. Je ne sais pas comment on peut avoir le facteur wow dans le GNSO. J'échoue misérablement depuis plusieurs années, mais il y a quelque chose. En écoutant ceci, qui me vient à l'esprit, c'est que je comprends ce que dit Elliot sur le contractuel. Nous comprenons le terme parce que nous avons signé le contrat avec ICANN, donc pour faire des affaires. Le terme j'ai dans le GNSO veut dire quelque chose. C'est un espace spécifique dans l'Internet. Et Judith, vous avez mentionné le terme de fournisseur. Nous sommes des fournisseurs à certaines personnes, que ce soit des usagers d'Internet, des acheteurs de noms de domaine ou fournissent des services à ICANN. Je ne sais pas ce que vous avez voulu dire par là. Tout cela semble pointer vers le besoin d'analyser cela pour, j'essaie de manière plus, avec une perspective plus large. Et les limites que nous avons astreintes, et le GNSO et le CCNSO, pour revenir à Steve, le CCNSO opère selon un régime très différent du GNSO. Ils n'ont pas de contrat. Ils ont des obligations limitées ou pas du tout par rapport à ICANN, par rapport à nous, partie contractuelle, au sein du GNSO. Donc, je me pose la question suivante. Si l'une des choses que nous devons analyser, c'est la structure même, et si ces deux SO n'auraient peut-être pas besoin d'un troisième SO qui représente mieux ce que va devenir l'écosystème, qui sera des fournisseurs qui traitent des services plutôt que d'essayer de s'écarter des contrats. Et si je peux utiliser cela pour passer au prochain thème, je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps. C'est également quelque chose. Encore une fois, vous avez dit que vous étiez préoccupé, vous avez demandé de la franchise. Je pense qu'il y a un élément de préoccupation, ce que nous voyons pour le moment. Donc maintenant, je parle des conflits d'intérêts et la manière dont cela est présenté à la communauté. C'est que n'importe qui a quoi que ce soit à faire avec quelqu'un qui a un contrat avec ICANN est taché. Sa réputation est engagée et cela nous préoccupe. C'est une préoccupation, un souci, parce que nous pensons qu'il y a beaucoup d'expérience et d'expertise au sein de cette partie de l'écosystème et je ne veux pas forcer les choses, mais je ne veux pas mettre des étiquettes même dans cette partie de l'écosystème et nous sommes préoccupés que cela, il pourrait être mis à l'écart en raison de cette perception d'un conflit d'intérêts. Si nous devons être francs, nous allons poser la question pour savoir si le board partage cette idée, si vous pensez peut-être que cela est allé trop loin dans l'autre sens. Quelle est votre perspective sur la manière que ces deux extrêmes peuvent être rapprochés? Bertrand, pendant le petit déjeuner ce matin, dit Bertrand de la Chapelle, avec un membre du board, quelqu'un a une formulation très intéressante qui me semble pourrait être utilisée dans cette discussion concernant l'objectif d'ICANN, autre chose, et le commentaire tel que ICANN est un espace pour permettre la coexistence, la résolution des intérêts conflictuels, ce qui est différent. L'objectif d'un processus multipartite, pour reprendre le terme de FADI, qui est un processus de fusion et de connexion, est de rassembler les actes des protagonistes qui participent aux activités avec des protagonistes qui sont peut-être impactés et influencés par cette activité. C'est un système unique. Ce n'est ni réglementation par une entité externe comme un gouvernement sans rapport avec les entités réglementées et ce n'est pas une autoréglementation non plus. Donc la question que vous me posez est la suivante, est plus large. Comment introduire un terme plus général pour traiter les thèmes tels que l'éthique, parce que le conflit d'intérêts est seulement un des volets des problèmes auxquels nous sommes confrontés, qui touchent le comportement dans un environnement concurrentiel les brevets qui étaient, comme a été souligné ailleurs, et également c'est un comportement déontologique de la communauté. Dans ce sens, la notion de transparence et de clarité au sujet de la situation des différents protagonistes est à la communauté, au board. C'est une des préconditions. Et pour le moment, je ne crois pas que nous avons prêté assez attention à un repositoire clair où tous les intérêts divers puissent être documentés, enregistrés et accessibles. Que le pendule se soit déplacé trop loin dans un sens ou dans l'autre, c'est la discussion, c'est la communauté de le décider. Je vois l'émergence d'une position sur la sélection dans les différentes commissions, la sélection des gens, et c'est probablement une bonne chose à aborder et à ne pas oublier. Je sais que Fadi va porter la question d'éthique et de normes telles que le reste du board très haut à l'ordre du jour. Bruce, juste une observation. Lorsque on parle du NOMCOM et des processus, souvent j'entends, lorsque les gens n'ont pas les résultats qu'ils cherchent lors d'un vote, la pression est que cela veut dire que nous devons modifier la structure. Et est-ce que ça va vraiment aider? Nous avons vu un grand exercice pour restructurer le GNSO. Cela a coûté beaucoup d'argent et de temps. Nous avons perdu beaucoup de progrès, surtout les thèmes de politique également. C'était les mêmes bénévoles et ça s'est aggravé en fait. Par opposition, si on regarde la déontologie, si vous regardez,
functional, because it's got people from...
le board peut être aussi dysfonctionnel parce que les gens proviennent en différents horizons, et si nous mettons nos propres problèmes sur la table et de défendre les registraires et la position CC, le board n'est pas différent du GNSO, mais le board est très efficace et c'est parce que les membres amènent une attitude de faire ce qui est bon pour l'organisation dans son ensemble. Et le board se réunit, prend beaucoup de temps pour se rencontrer pendant l'année et pas seulement dans ses réunions, et nous établissons une approche collaborative, et c'est la solution, pas de restructurer, de changer les votes et l'ordre. Si nous allons le faire, nous allions restructurer tous les systèmes parlementaires lorsque le premier ministre ou le président que nous voulons n'est pas élu. C'est la Donc en Australie, ce ne serait pas la bonne structure. Donc c'est une mauvaise attitude et une mauvaise collaboration. Donc je vois beaucoup d'améliorations à ce niveau, même des choses simples. Le BC et le groupe de propriété intellectuelle s'étaient mis d'accord sur des thèmes. D'abord, je n'avais jamais vu ça. Et j'ai vu certaines des VeriSign, Newstown et Australia qui se sont mis d'accord sur une approche pour le clearinghouse. Je n'avais jamais vu ça non plus avant. Mais les gens qui participaient ont fait la différence et qui avaient un objectif d'essayer d'atteindre la solution finale. Donc, faites attention par rapport aux structures et concentrez-vous sur l'attitude des comportements à collaborer. Judith et Stéphane, je sais que je vois qu'il nous reste 12 minutes et vous avez tous une liste de thèmes à aborder. Judith, pour revenir à la question de Stéphane, la question COI, nous devons reconnaître le pouvoir de l'Internet. Toute organisation puissante, institution puissante, automatiquement devient soupçonnée. On ne se sent pas puissant dans cette pièce, mais la perception l'usage de l'Internet par une population globale est tel qu'il y a cet intérêt dans la manière dont nous opérons. C'est pourquoi je pense que toutes ces questions surviennent autour de nous, mais les défis, et notre PDG l'a dit, nous devons agir. Si on doit suivre une certaine musique ou et on montre une hésitation ou bien une mauvaise volonté, cela crée le doute, la suspicion. Nous faisons les choses, nous devons sortir de notre zone de confort. On n'a pas le choix. Et le TI de Huiz, de rester là-dessus, ça ne va pas nous aider. De ne pas faire progresser les négociations RAA, ça ne va pas nous aider. Merci. Merci Judith. Stéphane. Merci Matt, Stéphane Van Galda, pour suivre ce qu'a dit Bruce. Je vous écoute, Bruce, de dire que le board travaille bien parce que tout le monde qui compose le board veulent faire ce que le agissent, œuvrent pour le bien d'ICANN. Moi, ce que j'essaie de faire en posant cette question, c'est peut-être ça que suggérait que c'était pas tout à fait vrai. Si c'était la perception acceptée par tous, je ne crois pas que nous poserions la question, parce qu'il n'y aurait pas de conflit d'intérêts, de perception de conflit d'intérêts. S'il s'agit d'un fait reconnu par tous, que tout le monde dans le board amène un désir commun pour travailler avec ICANN sans intérêts propres. Si je suis préoccupée alors que ce n'est pas tout à fait vrai, parce que si c'était le cas, vous-même, vous ne seriez pas concentré tellement sur le conflit d'intérêts pour que ce soit clair. Je pose la question, je veux que ce soit clair pour tout le monde, que certains d'entre vous sont exclus des discussions, que moi j'aimerais que toute l'expertise du board, que tous les experts soient inclus dans des discussions. On évite certaines erreurs du passé. Je vais le laisser. Je vais m'arrêter là. C'est un point intéressant, Stéphane dit, Steve Crocker. Le board est très consciencieux, et je suis d'accord, fortement d'accord, au sein du board. Il y a une croyance que ensemble nous sommes une équipe, nous formons une équipe en vue de l'intérêt commun, l'intérêt général. Nous sommes également conscients que ce n'est pas parce que nous pensons que c'est le cas que cela signifie que cela est perçu de même à l'extérieur. Donc nous avons la double perception de comment nous nous voyons nous-mêmes ou ce que nous comprenons, comment nous comprenons être vus de l'extérieur. Donc nous devons faire la bonne ce qui est juste, mais en même temps, disons que à faire des limites additionnelles pour faire très attention, pour se conformer à ce que les exigences soient au niveau de l'apparence et établir la confiance au niveau de l'extérieur, par l'extérieur, par le public qui nous regarde. Donc ça va être ajouter des complications à nos processus, comme vous avez souligné. Certains d'entre nous, y compris Bruce et moi-même, sommes exclus de ce processus. Nous avons lutté contre cela un peu et nous savons que ça a l'air un peu bizarre de l'extérieur. Ça a un effet positif, inattendu. Et ça a divisé notre charge de travail. Nous sommes plus efficaces en tant que président. La quantité de travail que Sherin a retiré de mon lot est incroyable.
Feeling any competition
Et sans, je ne me sens pas menacée ou mal à l'aise.
Despite the fact that it was
le degré d'organisation interne qui a amélioré notre efficacité est tel que c'est incroyable de voir qu'on n'a pas pu y arriver nous-mêmes d'ailleurs. Et la même raison pour que tous les gens qui ont une certaine expertise auraient pu nous aider, mais on en a reçu maintenant dans cette commission, nous avons beaucoup d'expertise et ainsi nous nous sentons beaucoup moins gauche, disons, sur la façon dans laquelle notre équipe fonctionne. Donc c'est là où nous en sommes. Nous avons passé beaucoup de temps pour voir si c'était un grand problème à la fin de la journée. Et en fait, nous avons continué au lieu de cela. Nous sommes allés de l'avant. Merci, Steve. Notre intervenant, excusez-moi encore, Matt, Céline au micro. Merci, Steve. Oui, il nous reste maintenant que 5 minutes. Peut-être pouvons-nous passer à autre chose. Il nous reste encore quelques éléments dont nous voulons parler. Maintenant, nous pouvons peut-être poser des questions là-dessus et avoir une petite discussion sur cet thème. S'il y a des idées que vous voulez partager avec nous, cela prendra quelques minutes. Steve Cork, micro. Il y a eu beaucoup de flux dans nos sujets. Nous avons couvert beaucoup, beaucoup de choses d'une façon ou d'une autre. Nous n'avons pas parlé de nos négociations de développement de politique sur des brevets. Quelqu'un au micro qui a pris la parole. Nous avons déjà parlé du WHOIS dans le contexte des ARA. Matt Sterling. Non, la personne dans la salle, prenez la parole. Il y a des choses qui sont vraiment problématiques de ce côté-là. Il y a, comme beaucoup d'entre vous, des gens qui étaient très engagés dans les premières 6-7 années de l'ICANN. Bruce et Ross sont morts sur cette colline d'ailleurs, sur la bataille. Depuis le début, le ton avait été mis en disant que les parties contractuelles, vous savez, cela prendra beaucoup trop d'argent, donc nous rien faire de ce côté-là. C'était vraiment une fausse vérité en fait. Il y a des experts indépendants, il y a des gens qui sont experts en sécurité, et certains qui veulent vraiment plus de sécurité, experts qui veulent plus de sécurité. À la fin au bout du compte, ce qui nous reste, il faut qu'on sache ce qui nous reste. Je voudrais vraiment soutenir le SSAC qui fait les choses proprement. Nous pouvons décider si nous voulons faire les choses rapidement pour montrer que nous voulons faire quelque chose ou nous pouvons être bons, nous pouvons faire les choses bien. Depuis le début de ICANN, c'est une des premières choses qui était sur le ticket. Et la raison pour laquelle nous n'avons pas fait cela, c'est parce que nous essayons de faire d'un bateau un avion, disons. Donc, au lieu de regarder ce problème, nous devons y faire face. En conclusion, nous devons tuer le problème et recommencer. Steve Cocker, je m'excuse. Est-ce qu'il y a un rapport de votre part que vous pouvez être aussi large là-dessus ou aussi étroit que vous voulez, mais pour vous-même ou en tant que groupe de registraires, nous avons investi plus. Steve, nous avons investi beaucoup d'argent là-dessus. Il y avait eu une recommandation de Bruce au début qui avait été acceptée. En dehors du lobby, le board avait refusé ces recommandations. Nous avons abandonné. Ce que je fais maintenant, je lis les choses que décident les groupes. Et souvent, le SAC est très proche de la vérité. Et ainsi, l'ensemble des recommandations de WHOIS, par exemple. Steve Cocker, oui, je vous comprends, mais nous arrivons à une jonction ici où nous devons... nous avons le rapport de WHOIS sur notre bureau et nous aurons le rapport des SAC avec les commentaires là-dessus aussi. Je comprends vos frustrations et le montant de travail qui a été fait là-dessus dans le passé, mais Puisqu'il y a un processus de décision qui est sur la voie, est-ce qu'il y a un commentaire de la part du groupe de registraires que vous voulez exprimer? La personne répond oui, je parle dans ma capacité, dans la capacité de registraire. Steve Crocker, je parle en capacité de Tukals. Steve Crocker, soyez libre de parler il parle en même temps, je suis désolée, nous avons dit oui, pardon. La personne sur le panel dit pour vous rappeler, Steve, que Bruce Tompkins, un rappel, Steve. Nous avons eu le même rapport dans les années en 2003, je crois, et on nous avait rappelé qu'il fallait passer du temps à passer sur les archives à Cannes, et on m'avait assuré que, d'ailleurs, pas très loin d'ici, en 2003 à Montréal, au mois de juin, nous avions 2 jours de workshop d'aller-vivre de travail de WIS, et les présentations couvraient à peu près tous les sujets dont vous avez parlé, avec beaucoup de données là-dessus. Si vous voulez, je peux vous envoyer un lien de cette présentation, de la présentation qu'il avait faite en juin 2003. La personne en public dit oui, ma soumission pourrait être, excusez-moi, nous n'entendons pas bien, voudrait être IBID et OPCIT. Steve Crocker, je n'ai pas passé beaucoup de temps là-dessus moi-même. Je me sens obligée de me mettre à jour là-dessus, de me faire une mise à jour. Je vais prendre une décision, mais je voudrais prendre des commentaires et me mettre au courant pour être sûr d'avoir toutes les informations nécessaires. La personne dans le public, je veux dire, si ça vous aide, pour la personne de Toco dit si ça vous aide pour Toco de vous soumettre le rapport SAC qui soutient cela. Steve Corken, Bruce vient juste de réitérer ce qui a été dit plus tôt. Très bien, Matt Sterling dit, cela nous amène vers la fin de notre session. Nous voulions prendre un moment à la fin pour reconnaître Stefan Van Gelder qui va quitter la présidence du GNSO. Il a été un très bon représentant pour ce groupe. Il a fait un travail extraordinaire en tant que président. Nous voulons le remercier pour son service dans cette commission à travers des temps parfois turbulents et qu'il a toujours fait son travail avec un certain degré de classe. Et on veut le remercier pour son professionnalisme. Et encore une fois, nous voulons remercier le board pour leur temps. Je sais que vous avez plusieurs groupes qui vont et viennent. Donc, en attendant, nous apprécions vraiment la conversation. Steve Crocker, c'est du travail primordial pour nous. Donc, ce n'est pas une obligation. C'est une activité clé pour nous. Merci.